le Seigneur, parce que nous croyons qu'il est vivant. Amen. Et si nous regardons notre monde, nous voyons combien notre monde a besoin de Dieu. Tellement de choses difficiles, compliquées, tellement de drames, et combien Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu puissant. Et souvent, les gens accusent Dieu quand tout ne va pas, mais c'est parce que Dieu est absent que tout ne va pas. Mais quand on l'invite à venir, quand Dieu est présent, le royaume de Dieu, la Bible dit, c'est l'amour, la paix et la joie. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais ensemble ouvrir la Bible dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Et je me joins à Jérémie pour saluer aussi les personnes nouvelles qui sont là au milieu de nous ou qui nous visitent. Soyez les bienvenus. Ésaïe chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 1er. Il est dit ceci, « L'année de la mort du roi Ozias, et c'est Ésaïe qui parle, le prophète, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Voilà, dans ce texte, Dieu vient se révéler à Ésaïe, un prophète, un homme choisi par Dieu pour parler de la part de Dieu. Dans un contexte où le peuple d'Israël, peuple qui a été divisé, Juda et Israël, était plutôt rebelle. Et la première chose que Dieu montre à Ésaïe, nous l'avons lu au verset 1er et on va ce matin s'arrêter sur cela. La première chose qu'Ésaïe voit, c'est Dieu sur un trône élevé et les pans de sa robe qui remplissaient le temple. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, parce que Dieu est roi et on voit les pans de la robe et c'est une image aussi. Vous savez que à l'époque, lorsque les rois portaient des habits dans l'Antiquité, la gloire, la grandeur du roi, elle pouvait être liée à la longueur des pans de la robe. Et on voit que Dieu est en train de remplir le temple et Dieu va montrer à Ésaïe cela. Il va lui montrer à Ésaïe qu'il est sur un trône et qu'il remplit le temple. Vous savez que le temple, dans la Bible, c'est une image dans l'Ancien Testament aussi de l'Église. Et on le verra aussi tout à l'heure de notre cœur. La Bible dit que nous sommes appelés à être le temple de Dieu. Et c'est aussi une image de l'Église. Et Dieu va révéler quelque chose à ce moment-là. Il va montrer quelque part sa vision du temple. Vous savez qu'aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des temples, il y a des églises, mais où on fait n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que quand Dieu n'est pas là, ben c'est l'homme qui est là. Et quand l'homme est là, vous savez, la Bible dit que l'homme est pécheur, qui fait le mal qu'il ne veut pas, il ne fait pas le bien qu'il veut. Et vous savez, quand Dieu n'est pas là, c'est très facile à ce que dans les églises, dans les endroits, il y ait le pouvoir, comme d'ailleurs on peut le voir dans certaines sphères, le pouvoir, la manipulation, les critiques, toutes sortes de choses. D'ailleurs, une des premières choses qui empêche les gens de s'approcher de Dieu, de venir à l'église, eh bien, c'est ce qu'ils voient. Et souvent, ils disent, ah ben, si l'église c'est ça, si Dieu c'est ça, moi j'en veux pas. Mais Dieu, c'est pas ça. Je le dis souvent, ce qui est malheureux, c'est ce que l'homme est. Et Dieu va donner sa vision de l'Église. Et l'Église dont nous avons besoin, c'est une Église où Dieu vient et remplit l'Église. Une Église où Dieu règne. La Bible dit que quand c'est Dieu qui est là, Dieu, il n'y a pas de péché en Dieu. On l'a chanté. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu amour, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui est paix, qui est joie, qui est bénissant. Amen. Et si toutes les églises, nous pouvions vivre ce que Dieu a montré à Ésaïe, alors je peux vous assurer que les gens couraient à l'église. Et c'est intéressant de voir pourquoi Dieu lui montre cela. Et nous allons voir deux raisons. La première raison, c'est parce que le temple de l'époque avait véritablement besoin de revenir à cela. Le temple qui était ce lieu où Dieu devait venir se manifester. Parce que vous savez, quand Dieu est présent dans un lieu, en tant que roi, il fait ce qu'il veut. Quand vous avez quelqu'un qui est dans un lieu et qui est un invité, il fait ce que tu lui permets de faire. Si quand tu arrives chez quelqu'un que tu es invité, tu n'arrives pas, tu ne fais pas ce que tu veux. Ou alors tu es mal poli. Non, tu attends que les gens te disent et tu fais ce que les gens te disent. Mais quand quelqu'un rentre dans un lieu et qu'il est le roi, il fait ce qu'il veut. Alors rassurez-vous, quand je dis que Dieu est roi et qu'il fait ce qu'il veut, ce qu'il veut, c'est bon. Ce qu'il veut, c'est pas quelque chose de mauvais ou d'amoral, non, c'est quelque chose de bon, de vrai, d'honnête, de bénissant. On a besoin, et c'est la volonté de Dieu, que toutes les églises, et priez pour la France, priez pour les églises de France, priez pour l'église d'Albi, que Dieu remplisse ce lieu de sa présence en tant que roi. Qu'il puisse faire ce qu'il veut au milieu de nous. Comme on a pu entendre au mois d'octobre passé, que j'ai appris au milieu de nous, quelqu'un est guéri dans son cœur, d'années de blessures par rapport à sa famille. Ouais, quand Dieu est au milieu de nous, il se passe des choses. Amen. Dimanche prochain, si Sarah est toujours là, elle témoignera de ce que le Seigneur a fait dans sa vie au milieu de nous. Mais nous avons un Dieu qui est puissant, mais aujourd'hui, les églises peuvent s'éloigner de la volonté de Dieu. Vous savez, on peut parler de Dieu, on peut servir Dieu sans que Dieu soit là, sans que Dieu soit roi, sans que Dieu soit présent. Et c'est le plus terrible parce qu'on donne une image de Dieu sans que Dieu soit là. Et quand Dieu n'est pas là, vous savez, il y a vite les critiques, il y a les rivalités, il y a toutes sortes de choses parce que le diable, il est là, lui. Il travaille de partout. Et quand il n'y a pas Dieu, le diable, il prend la place. Quand Dieu est là, le diable fuit, parce que la lumière chasse les ténèbres. Mais quand il n'y a pas la lumière, les ténèbres, elles viennent. Et il y a tellement d'histoires. Moi, en tant que pasteur, la première raison qui fait que les gens ne viennent plus à l'église, c'est parce qu'ils sont déçus. Déçus des gens, déçus de ce qu'ils voient. Et c'est sûr, Dieu a voulu l'église. Et même si nous allons le voir, Dieu désire habiter l'église, eh bien, il veut habiter, il a voulu l'église, il a voulu que nous puissions vivre sa présence, mais aussi avec notre humanité. On n'est pas parfait, on est en chemin. Des fois, on voit les gens, on dit, toi, t'es chrétien et tu fais ça, et oui. Alors, c'est sûr, il faut qu'on change, mais il faut comprendre qu'un chrétien, il est en chemin. Il y en a, ils ont compris des choses, d'autres, ils ne l'ont pas compris. Et on a besoin d'avancer. Et une des directions que je veux donner à l'Église, c'est qu'on évolue tout le temps. Qu'on ne reste pas toujours pareil. Ils ne disent pas, bon, je connais Dieu, ok, je connais Dieu. Non, mais on a toujours besoin de connaître. Qu'est-ce que notre connaissance ? Une goutte d'eau par rapport à l'océan. Et on veut évoluer, on veut mieux le connaître, on veut mieux le servir, on veut être transformé, on veut plus l'accueillir, on veut être rempli. Et je bénis Dieu parce que je suis touché de voir que dans ces derniers temps, on est en 2025, Dieu attire des gens dans l'Église. Il y a des gens qui sont là parce que Dieu les attire. Et moi, je le découvre. Vous savez, quand vous êtes pasteur, vous faites face, aux limites humaines. Un pasteur, c'est comme tout le monde, on a nos limites humaines. Simplement, on connaît un grand Dieu, heureusement. Et on a nos limites humaines, mais quelle gloire de voir Dieu agir. De voir Dieu dans des situations impossibles se manifester. Alors, j'avance parce que je ne voudrais pas être trop long. Pourquoi Dieu montre cela à Ésaïe ? Eh bien, parce qu'il y avait besoin de royauté et de la présence de Dieu dans son temple. À cette époque-là et à ce moment-là, la Bible parle que Dieu se révèle l'année de la mort du roi Ozias. C'était un temps où dans le temple, il n'y avait plus la manifestation de Dieu. Il n'y avait plus la présence de Dieu. Et nous voyons dans la Bible, dès l'Exode, dès le temps de Moïse, que Dieu avait voulu un temple. Alors, non pas pour habiter à l'intérieur d'un temple, parce qu'on verra que c'est l'image du fait que Dieu veut habiter en nous, mais c'est aussi une image de l'Église où Dieu veut habiter au milieu des hommes. Où Dieu veut venir au milieu des hommes, nous rencontrer. Il y a cet aspect que Dieu vient au milieu des hommes, mais il y a aussi cet aspect que Dieu veut que nous soyons ensemble. Amen. Il y a une bénédiction. Le psaume 133 nous dit, quand les frères se rassemblent ensemble, et les sœurs aussi, eh bien, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Bien sûr, tu peux rencontrer Dieu dans ta chambre tout seul, mais il y a une bénédiction particulière quand ceux qui ont reçu de Dieu, qui croient en Dieu, se rassemblent. Et à ce moment-là, et l'année de la mort du roi Ozias, Dieu parle, et donc, déjà au temps de Moïse, il y avait la volonté de Dieu qu'il y ait un temple, alors à l'époque un tabernacle, puisqu'il devait bouger. Dieu dira qu'il me fasse un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Symbole de l'Église, un lieu de rencontre. Voilà pourquoi, et c'est intéressant, un lieu de rencontre avec Dieu. L'Église, c'est un endroit où il faut que nous rencontrions Dieu, parce que c'est Dieu qui est la vie. Si on va à l'église et que Dieu n'est pas là, il n'y a pas la vie. C'est pour ça que moi je dis aux gens, quand tu vas dans une église, va dans une église qui prêche la parole et où il y a la vie. Et oui, parce que c'est important et parce que ce n'est pas partout. Dieu est vie et la vie que l'humanité cherche est auprès de lui. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne doit pas être un concept, mais une réalité au milieu de nous. Et si c'est le cas, alors il y a la vie, la guérison, la bénédiction, la victoire. Alors il y a des choses du royaume de Dieu qu'on trouve dans la sphère d'influence de Dieu. Amen. Plus tard, après Moïse, du temps de Salomon, c'était peut-être là où il y avait le plus de gloire. Salomon va construire un temple. Et la Bible dit, et Dieu dira, voilà, tu vas bâtir cette maison. Et c'est intéressant parce que Dieu révèle le but de la maison. Et c'est aussi le but de l'Église. Il dira, tu vas bâtir cette maison. Et si tu marches selon mes lois, tu pratiques mes ordonnances. Et là, on retrouve la royauté de Dieu. Pratiquer, écouter ce que Dieu dit, et j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, et il dira, j'habiterai 1 roi 6, 13, au milieu des enfants d'Israël, et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Et la Bible révèle dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 et 14, que là, alors que Salomon va, oui, faire des sacrifices, va tout faire dans la maison à l'époque, il fallait, on le verra tout à l'heure, il fallait des sacrifices, parce que l'homme étant pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu. Donc il fallait sacrifier des animaux pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, béni soit Dieu, Dieu a envoyé Jésus, on n'a plus besoin de faire de sacrifice. Et c'est à cause de Jésus que nous pouvons connecter avec Dieu. Il est dit dans ce texte, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Et on voit que déjà au temps de Salomon, la volonté de Dieu, c'est quoi ? Pour l'Église, eh bien, c'est que Dieu soit présent dans l'Église en tant que roi. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit présent et qu'il agisse, qu'il soit le roi, qu'il agisse au milieu de nous. C'est sa volonté. Et comment il le fait, puisque Dieu est au ciel ? Comment il fait pour être présent au milieu de nous ? Il le fait par son esprit. C'est par son esprit. Voilà pourquoi on parle souvent du Saint-Esprit. Amen. Et donc, au temps de Salomon, c'est ce qui se passait. Mais malheureusement, il va y avoir, après Salomon, tout un temps de déclin spirituel. Les sacrifices vont continuer, mais le peuple ne sera plus fidèle à Dieu. Et il n'y aura plus cette manifestation de Dieu dans le temple. Il peut continuer à avoir des sacrifices, on peut continuer à louer Dieu, on peut continuer à venir, on peut même lire la Bible et Dieu peut ne plus être là. Et puis au temps de Joas, le roi de Juda, après qu'il y ait eu le schisme, au temps de Joas, le temple de Dieu va commencer à être restauré. Temple de Dieu va commencer à être restauré, 2 rois 12, 4, 16. Je ne vais pas tout lire, mais Joas va ordonner une collecte d'offrandes pour réparer le temple. Le roi va donner ordre aux sacrificateurs, aux intendants du trésor, aux intendants des maisons de recueillir les offrandes et de réparer le temple de Dieu. Ils vont commencer à réparer, ils vont mettre même de l'empressement. Mais la Bible dit que Joas va le faire tant que le sacrificateur Jéhojada était vivant. Il y avait cette influence de sacrificateur, un homme de Dieu qui a influencé justement pour ramener finalement l'importance du temple et l'importance de Dieu dans le temple. De ramener les cœurs vers Dieu, la royauté de Dieu. Mais lorsque Jéhojada va mourir, regardez, c'est très explicite, je le lis. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. Voilà ce qui s'est passé. Ça avait recommencé. On recommençait à considérer le temple, à rebâtir. Et puis, on a délaissé le temple pour d'autres dieux. Vous savez qu'on peut venir à l'église, mais notre cœur peut adorer d'autres dieux. On peut venir à l'église, mais le dieu de l'église n'est plus ce qui est important dans notre cœur. Et on se rend compte qu'ils abandonnèrent la maison de l'Éternel. Et combien c'est une image aujourd'hui de ceux et celles qui abandonnent l'église, qui abandonnent le Seigneur. L'église, vous savez, c'est comme l'organisme vivant, c'est comme l'organisme pratique pour montrer le royaume de Dieu sur la terre. Dieu a voulu l'église pour donner une image du royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes là pour que les gens voient Dieu. Nous sommes là pour que Dieu guérisse les âmes, guérisse les corps malades, sauve les âmes, pour que Dieu soutienne le faible, pour que Dieu enseigne et nous transforme à l'image de Jésus. On est là pour ça. On est là pour que Dieu agisse, Dieu fasse. La Bible dit, ils abandonnèrent la maison de Dieu. Et après ce déclin spirituel, eh bien, il va y avoir un roi qui s'appelle Amatsia. Et Amatsia, en fait, c'est le grand-père, si je ne me trompe pas. Non, c'est le père d'Ozias, celui dont on a lu le texte. Il est dit d'Amatsia, celui qui était juste avant Ozias. Donc, il y a eu Joas qui commence à rebâtir. Joas est juste avant Amatsia. Joas rebâtit, mais le déclin continue. Et puis, Amatsia arrive, et à Amatsia, la Bible dit de lui, il ramena les dieux des Édomites et les mit pour les adorer, et le cœur du peuple s'éloigna après eux. Le déclin continue. Le temple de Dieu, le Dieu roi, eh bien, n'est plus le roi. Et c'est comme si c'est abandonné. L'adoration est donnée à d'autres dieux. La Bible dit, Amatsia fut de retour après la défaite des Édomites. Pourtant, il a des victoires. Il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux, leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatsia. Et on voit que le temple a été profané, le dieu roi est parti. Alors aujourd'hui, c'est sûr, on ne s'identifie pas, nous. Je ne pense pas qu'on a des adorateurs d'Astarté ce matin, n'est-ce pas? Mais vous savez, nos cœurs adorent tellement de choses. Nos cœurs peuvent être tellement sur autre chose. Les nouveaux dieux aujourd'hui, c'est Internet, c'est le sport, c'est toutes sortes de choses qui sont là. Et finalement, qui délaissent le temple, qui délaissent notre Dieu, le vrai Dieu, ce Dieu qui veut être roi. Et je dis, mais il n'y a pas de plus grande chose que notre vie puisse être utile pour que Dieu se manifeste et amène la vie dans la vie des gens qui sont autour de nous. L'espoir. La puissance, la victoire. Et quand on est pris par d'autres dieux, on passe à côté de tout cela. Et donc, ce Amatsia, il va pas faire ce qu'il fallait, évidemment. À l'époque, quand Juda et Israël étaient divisés, le temple était à Jérusalem, en Juda. Il est même parlé, il avait des victoires. Vous savez, on peut avoir des victoires et Dieu peut ne plus être là. Dieu peut te bénir, mais le Dieu de la bénédiction n'est plus là. Pas parce que lui ne veut pas être là, mais parce que nous le délaissons. Parce que lui, il est là quand on l'accueille. Il vient, il nous aime. Amatsia avait mis une partie du trésor de la victoire contre Édom. Au lieu de le mettre dans la maison de Dieu à Jérusalem, il l'avait mis dans une autre maison, il l'avait gardé pour lui. Il n'avait pas mis dans le temple de Dieu. À la différence du roi David et de ses successeurs, de certains de ses successeurs, qui lorsqu'ils avaient une victoire, donnaient une partie du butin pour le temple, comme geste de consécration et de reconnaissance. Et aujourd'hui, pour appliquer aujourd'hui. Dieu fait tellement de choses dans nos vies. Mais plutôt que d'apporter notre reconnaissance, notre témoignage aux personnes qui sont autour de nous, on prend ça finalement et puis on le garde pour nous. On ne rend pas gloire à Dieu. Mais bien aimé, si Dieu te bénit, rends gloire à Dieu. Sois reconnaissant, témoigne de ce que Dieu fait, parce que c'est la moindre des choses et parce que c'est ce qui amène aussi Dieu à être au milieu de nous, présent comme roi. Amen. Et puis on arrive à Ozias, le roi du texte que nous venons de lire. Azaria, il est aussi appelé Azaria, qui au départ est un bon roi, qui va régner longtemps, 52 ans je crois, mais qui va finir lui aussi par profaner le temple. Et nous voyons que finalement, il va y avoir ce moment où Ozias Il va vouloir offrir de l'encens à la place des sacrificateurs. Mais à l'époque, et il fallait faire les choses comme Dieu l'avait dit. Il fallait offrir des sacrifices. Souvent, il n'y avait pas que ça, mais il y avait un sacrifice pour couvrir le péché. Et ces sacrifices devaient être faits par des sacrificateurs. Et Dieu avait donné cette manière pour nous montrer que, et c'était cela, le sacrifice offert par les sacrificateurs qui faisait que les hommes pouvaient entrer en contact avec Dieu, que Dieu pouvait habiter au milieu des hommes et agir. Et Ozias va vouloir faire, alors lui c'était pas un sacrifice, il va vouloir offrir de l'encens, mais il va vouloir le faire de lui-même, au lieu de laisser les sacrificateurs, il va profaner le temple. Et aujourd'hui c'est l'image de tous ceux et celles qui veulent servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu, qui veulent même faire l'Église sans Jésus. Vous voyez, Jésus est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Jésus est celui qui permet à Dieu d'habiter au milieu de nous et d'amener son royaume. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a donné sa vie pour pardonner nos péchés. Il n'y a que Jésus qui a payé, il n'y a que Jésus qui était pur et saint pour pardonner nos péchés, pour nous ouvrir le ciel. Et il n'y aura rien d'autre que Jésus pour pouvoir amener la présence de Dieu au milieu de nous. Mais aujourd'hui, il y a plein d'églises qui ont remplacé Jésus, et je prie que ce ne soit pas notre cas, par des techniques, par des stratégies, par toutes sortes de choses, par nos efforts. Mais Jésus reste celui qui nous permet d'être en communion avec Dieu. C'est important, Ozias va profaner le temple. Sans Jésus, pas de pardon, pas de contact avec Dieu, rien d'agréable à Dieu. Même les œuvres que je peux faire, ma Bible dit « ma justice est comme un vêtement souillé ». Sans la présence de Dieu au milieu de nous, nous devenons une religion. Mais les gens n'ont pas besoin de religion, les gens ont besoin d'un Dieu vivant. Et Ozias va profaner le temple, il va être frappé par la lèpre. Et il va finir par mourir, et c'est dans ce contexte-là que Dieu montre que sa vision du temple, c'est que lui soit roi et puisse remplir le temple. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Parce que si dans notre vie, et nous allons voir ensemble comment nous pouvons participer à ce que Dieu soit roi au milieu de nous et remplisse cette église, alors je peux vous assurer que si Dieu est là, il y aura la vie. Et il y aura des gens qui viendront parce qu'il n'y a pas de vie à l'extérieur. Et je dis, Seigneur, c'est ma prière qu'il y ait toujours ton esprit dans l'église. Ça, c'est la première prière. La deuxième, c'est que tu remplisses l'église. Amen. Alors, on n'est qu'au premier point. Il n'y en a que deux, hein. Résumé ainsi, au temps de Salomon, le temple avec la présence de Dieu au milieu du peuple est là. Le déclin arrive, je n'ai pas parlé, mais il y a plusieurs rois avant, entre Salomon et Joas, où il y a eu vraiment un déclin. Joas va réparer, il y a comme un sursaut d'espoir, mais malheureusement ça s'arrête et ça ne va pas jusqu'à ce que Dieu vienne au milieu du temple. Et ensuite, il va y avoir Amatsia et puis ensuite Ozias qui vont profaner le temple, qui vont s'éloigner du vrai Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu parle à Ésaïe et lui montre qu'il veut remplir le temple. Sa présence. Et ça n'a pas changé, les gens qui viennent au milieu de nous, que soyons chrétiens ou non croyants, ce que nous désirons, c'est que Dieu soit roi et réel au milieu de nous. C'est pour ça que nous parlons souvent de la manifestation de sa présence. Parce que oui, nous connaissons tous le verset, là où deux ou trois s'assemblent au milieu de nous, tu es au milieu de nous, il est au milieu de nous. Mais s'il est au milieu de nous, qu'il ne fait jamais rien, c'est pas bon. On veut qu'il soit au milieu de nous, mais qu'on voit qu'il est au milieu de nous. Que des vies soient changées, des âmes soient sauvées, des vies soient transformées. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'on a plusieurs personnes qui sont en train de se tourner vers Dieu. Et je dis, Seigneur, ça, c'est ton œuvre. Mais aussi la réponse à la prière de l'Église, tous ceux qui prient, soit le jeudi matin, mardi soir, et on bénit le Seigneur pour cela, c'est une grâce. Alors Dieu va se montrer de cette manière pour montrer à Ésaïe qu'il y a besoin dans l'Église, dans le temple, de sa présence, de sa royauté. Parce que sous le règne de Joas, Amatsia et Ozias, eh bien, ça avait disparu. Aujourd'hui, le monde a besoin d'Église. Parce qu'il y a plein de gens, ils veulent s'approcher de Dieu, mais ils n'y arrivent pas. Le monde a besoin d'église, pas de secte qui te manipule, pas de gens qui essaient de prendre ton argent. Non, d'église qui te donne la vie, qui te donne quelque chose, qui te donne soif, dans lequel, quand je viens dans l'église, quelque chose se passe dans mon cœur. Dieu touche mon cœur, où je sens l'amour, où je sens la paix et la joie. Alors, malheureusement, tu peux ne pas toujours sentir l'amour, la paix et la joie, parce que l'église, elle est ouverte à tout le monde. Donc, tu as de tout. C'est un peu comme dans l'Arche de Noé. Mais bon, je m'arrête là. Les gens n'ont pas besoin de rituels, mais la présence réelle de leur Créateur. Dieu est notre Créateur. Dieu est ce à quoi ton cœur aspire, même si tu ne le sais pas. Jésus est la porte, l'Esprit est le guide. Et nous avons besoin du royaume, de la vie de Dieu, de la présence de Dieu. Jésus est la porte et l'Esprit de Dieu, c'est ce guide. Et l'église d'Albi n'est pas faite pour des rites, pour des pratiques rituelles. Et je suis content, je sais que ce n'est pas le désir de ceux qui servent avec des cœurs éloignés. Mais l'église d'Albi, eh bien, c'est une église qui doit accueillir la présence de Dieu comme roi. Avec des cœurs qui se tournent vers lui. Et quand vous vous tournez vers lui, vous savez ce qui se passe? Après, vous vous tournez vers les frères et vers le monde. C'est ce que le Seigneur veut. Amen. Alors, premièrement, Dieu va parler à Isaïe pour lui montrer qu'il y a besoin de la présence de Dieu, de la royauté de Dieu dans l'Église. Deuxièmement, Dieu parle à Isaïe parce que Dieu a besoin de lui, d'Isaïe, pour ramener la présence de Dieu et la royauté de Dieu dans l'Église. Et ça, c'est mon deuxième point et c'est important. Vous savez, quand Dieu se montre, quand Dieu se révèle, c'est parce que oui, il y a un défi, oui, il y a un besoin. Il y a un besoin dans toutes nos églises, dans cette église ici. Toutes les églises sont les églises de Jésus-Christ. Jésus dira, je bâtirai mon église. Nous, on est des gestionnaires et on doit rendre compte à Dieu. Mais dans toutes ces églises, on a besoin aussi d'hommes et de femmes qui se lèvent pour dire, moi, je vivrai. Pour que dans l'église locale, là où je vais, ma foi, ma communion avec Dieu permette à Dieu d'agir au milieu de nous. Où j'accepte la royauté de Dieu, et on va en venir maintenant, on va parler de nos cœurs. J'accepte la royauté de Dieu dans ma vie pour que Dieu soit roi aussi dans l'église. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Et servir Dieu avant de faire des choses pour Dieu, c'est l'écouter. C'est dire, Seigneur, je veux que tu sois roi. Avant de faire des choses pour Dieu, c'est croire. C'est communier et louer. Parce que la Bible dit, à un moment donné, des hommes vont venir vers Jésus et dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu? Alors, ils s'attendaient à ce qu'ils disent, faut faire ça, faut faire ça. Jésus va leur dire, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Parce que quand tu crois, et quand tu places ta foi, et souvent la foi, ça paraît quelque chose d'abstrait de croire. Mais souvent, c'est pour ça que nous parlons de la prière. Nous prions parce que nous manifestons de manière extérieure notre foi. Nous nous appuyons sur ce que Dieu dit. Nous ne créons pas des choses, nous ne faisons pas de miracles. Mais nous nous appuyons sur le Dieu des miracles. Nous croyons dans le Dieu Tout-Puissant. Nous nous appuyons sur lui et nous le regardons faire. Mais vous savez quoi? Quand vous placez foi en lui, quand vous croyez en lui, ensuite, ça vous amène à des actions. Mais ces actions ne sont pas des actions humaines déconnectées de Dieu. Ces actions sont le fruit de ta foi placée en lui, sont des œuvres de la foi. Et là, les choses changent. Amen. Oui, Dieu parle à Isaïe pour parler à ce peuple. Que Dieu soit roi, que Dieu se manifeste. Quand Dieu se révèle et se montre, c'est toujours pour un but, pour un changement. Mais ce changement, et je viens maintenant à mon point suivant, ne se fait pas avec le bâtiment. L'église, même si on a dit ce matin, on va à l'église, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, Dieu n'est pas dans le bâtiment, dans les murs. On a une croix, comme ça on sait qu'on est chrétien, mais qu'on ait de croix ou pas de croix, ce n'est pas important. Ce qui est important, vous savez ce que c'est? La Bible dit dans le Nouveau Testament que le temple de Dieu, c'est nous, c'est toi. Si nous voulons que Dieu soit au milieu de nous, il faut qu'il soit d'abord en moi. Si nous voulons que Dieu se manifeste puissamment au milieu de nous, eh bien nous avons besoin de l'accueillir dans notre cœur. La Bible dit, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors ça, c'est une réalité lorsque nous acceptons Jésus-Christ, évidemment. Quand nous acceptons Jésus, pardonne nos péchés, il fait de nous le temple de Dieu, il vient habiter en nous et nous avons foi en lui. Et nous vivons maintenant dans la connaissance de Dieu, dans la communion avec Dieu, et nous avons soif de le servir. Amen. Et quand il vient habiter en nous, eh bien, il y a la royauté de Dieu qui vient, mais elle n'est pas tout de suite parfaite, évidemment. Mais Dieu, petit à petit, dans nos vies, désire prendre la place du roi. Alors, il nous amène à nous éloigner du péché, à ne pas pratiquer le péché, à ne pas vivre selon les choses, ce que nous voyons autour de nous dans le monde. Il nous amène à vivre selon la parole de Dieu. Et petit à petit, il prend la place de roi. Et quand Dieu prend la place de roi et que tu viens à l'église sans te rendre compte, ta foi, elle amène une onction, une manifestation de Dieu dans l'église. C'est pas la même chose quand tu as 100 personnes qui viennent dans une église et qui ne croient pas en Dieu, ou qui croient un petit peu, qui ont fait une petite expérience et qui prient Dieu, que 100 personnes qui ont accepté Jésus, qui croient qu'il est en eux, qui veulent qu'il règne et qu'il prie. Vous savez, ça fait une différence. Il y a quelque chose qui se passe. Dans le Nouveau Testament, le temple, c'est nous. Et la manifestation de Dieu au milieu de nous, l'onction, quand on dit que Dieu remplit la maison, eh bien c'est quoi? C'est que Dieu parle, que Dieu soutienne, que Dieu délivre, guérit, sauve, éclaire, fortifie, accomplit ses promesses. Que Dieu produise le fruit qui change notre caractère, nous transforme, communique les dons spirituels pour édifier, consoler et se révéler. C'est tout ça. Amen. On en a besoin. La manifestation de Dieu dans l'Église est directement liée à la place qu'il prend dans ta vie. Si on vient ici, on sert Dieu, mais notre cœur, il est ailleurs. Ça ne va pas amener l'onction de Dieu. Mais si tu viens ici avec un cœur brûlant pour Dieu, vous savez, il y a quelque chose de pas visible, mais de réel qui se passe. Et je prie que nous ayons des cœurs brûlants pour Dieu. Bien sûr, l'Église de l'Ancien Testament était voulue, le temple, voulu par Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle du rassemblement des croyants, que ce soit dans ce lieu, dans une maison, peu importe, le rassemblement des croyants. Le Nouveau Testament nous enseigne que c'est ce qui se passe avec nos cœurs. Et finalement, si dans l'Ancien Testament, ils apportaient de l'or pour bâtir le temple, aujourd'hui, vous savez ce que c'est l'or pour bâtir l'Église? C'est notre foi. On apporte notre foi. Et quand tu viens à l'église avec la foi que Dieu est là, la foi que Dieu t'a sauvé, la foi que Dieu veut bénir ton frère assis à côté de toi, ça change beaucoup de choses. Amen. Et quand nous vivons des choses, des victoires, oui, nous témoignons, nous louons, nous adorons. Servir le Seigneur dans le temple. Et cela, et je vais terminer avec ce point, cela va amener Dieu à poser une question. Il va dire à Ésaïe au verset 8, Ésaïe dira, j'entendis la voix du Seigneur. Et voilà, voici ce que Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Vous savez, si Ésaïe avait juste regardé au contexte, au peuple qui se dégradait depuis déjà plusieurs règnes, il n'a vécu que dans le fait que le peuple se détourne de Dieu. Il n'a connu que ça. La mort du roi Ozias. Si on regarde à ça, ça peut nous amener, vous savez, finalement, Isaïe, quand il regardait le temple, il aurait eu de quoi critiquer. Hein. Il aurait eu de quoi dire, oh, mais ça ne va pas du tout, mais c'est quoi ça, mais où est Dieu? Enfin, il aurait pu critiquer. C'est ça Dieu, c'est ça l'Église. Ah oui, l'Église sans la présence de Dieu, oui, c'est ça. Mais quand Dieu est présent, c'est différent. Oui, il aurait pu regarder à tout cela. Et puis, il aurait pu choisir de se décourager, de se lamenter, de critiquer. Mais Ésaïe choisit de dire, « Me voici, envoie-moi. » Et moi, je te pose la question. Ici, alors merci Seigneur, hein, le Seigneur est là. Mais il y a plus. Le Seigneur veut faire plus, amen. Et je te pose la question. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur qui dit, mais qui enverrai-je pour rebâtir mon temple? Qui enverrai-je pour rebâtir l'Église? Qui enverrai-je pour finalement vivre afin que je redevienne roi et agissant, que je remplisse ce lieu de ma présence? Qui marchera pour moi? Qui enverrai-je? Nous avons des choses à vivre. Et si nous répondons à son appel, et Dieu a un appel de bâtir, bien sûr, il a un plan pour nos vies, mais il a un appel de bâtir l'église ici à Albi. Et bâtir l'Église, bien sûr, c'est de pouvoir servir dans les différents départements de l'Église, mais cela commence par chérir sa présence. Par dire, Seigneur, ce que je veux, c'est que tu sois roi au milieu de nous. Je veux commencer à t'écouter plutôt qu'écouter mes pensées. Parce que si on veut que Dieu soit roi au milieu de nous, déjà, Seigneur, aide-moi dans ma vie à ce que tu sois roi dans ma propre vie. Qui enverrai-je ? Et nous sommes bientôt, la rentrée arrive. On a eu des départs. Et moi, je crois que le Seigneur appelle les uns les autres à le servir, à bâtir l'Église. Et quand on fait même le ménage dans ce lieu, eh bien, on participe à ce que Dieu puisse, au milieu de nous, se manifester. Quand on fait le ménage ici à l'Église, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des frères et sœurs avec qui on peut prier, qu'on peut bénir. Quels que soient les services qu'il y a, et je voudrais rappeler que aujourd'hui encore, Dieu désire se manifester dans son temple, dans son Église. Et il pose la question, qui enverrai-je ? Et Ésaïe va répondre, me voici, envoie-moi. Pour que Dieu puisse régner au milieu de nous, se manifester. Le temple, ce n'est pas seulement toi, mais c'est nous tous. Et ça vaut la peine de se lever et de dire, Seigneur, je veux participer à ce que tu sois présent en tant que roi. Amen. Je pense aussi à ceci. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'Église, et c'est normal avec le monde qu'on vit, soit pour voir ce que c'est, ou dans une démarche personnelle de recevoir quelque chose. Mais nous avons besoin d'hommes et de femmes qui viennent à l'Église pour donner quelque chose. Pour donner. Qu'est-ce qu'on a à donner ? Qu'est-ce qu'on a de meilleur à donner ? Le meilleur qu'on a à donner, c'est Dieu. Et Dieu, il est en nous. Et comment on peut donner Dieu ? Par la foi, par la prière. Voilà pourquoi, à partir de ce mardi-là, nous allons avoir des temps de prière le mardi soir, d'enseignement et de prière. Prier parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Notre ville en a besoin. Il y a tellement de besoins autour de nous, nos voisins. Je pense aux prostituées qui sont là derrière, dans la rue. Tellement de gens ont besoin de la grâce de Dieu. Ont besoin de guérison, ont besoin de vie, ont besoin de transformation. On va prier. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Mais on peut prier pour que la gloire de Dieu vienne. Vous savez, là où j'étais, on priait, et puis un jour, il y a une femme, elle était malheureuse, triste dans le bus, elle cherchait Dieu, et puis un jour, elle dit, elle sent dans son cœur qu'il faut aller à un certain lieu. Elle voit, en fait, dans un songe, elle voit un lieu, en fait. Et en fait, c'était notre église. Elle le voit, alors qu'elle criait à Dieu, elle voit ça. Elle voit, je crois que c'est la cathédrale. Et puis, elle va devant la cathédrale, puis Dieu lui dit, non, c'est pas là. Et retourne-toi. Elle se retourne et puis elle voit un porche, c'était l'entrée de notre église. Elle est rentrée dans l'église, Dieu a restauré sa vie, Dieu a béni sa vie. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça, nous ? Non, ça c'est possible parce qu'on prie. Et quand on prie, Dieu envoie des gens. Et Dieu sauve, Dieu devient le roi, il se manifeste et c'est notre appel. On va vieillir, on va mourir, qu'est-ce qu'on aura fait ? Moi je veux vieillir et mourir en me disant, Dieu a pu servir de ma vie. Pour que des gens le connaissent. Amen. Là, la semaine dernière, j'ai fait 40 ans. Je suis à la moitié de ma vie, à peu près. On va dire. Je me dis, je suis content de vivre pour Dieu. Et toi ? Vous savez, toutes les choses, les idoles, les astartés, tout ce qu'il y a autour de nous, ça passera. Mais ce qui restera, c'est ce que tu considéreras de Dieu. Sa présence. Et je veux vous encourager à la vidéoprojection, à la sono. Au ménage, à la garderie que nous allons lancer, on a besoin de gens. De gens baptisés, engagés et qui fréquentent l'église. On a besoin de personnes, mais des personnes qui comprennent que le but, c'est que Dieu soit au milieu de nous, se manifeste, soit le roi. Des personnes qui disent, avant de faire tout ça, je veux venir le mardi et prier avec mes frères et sœurs. Bien sûr, je prie à la maison, mais je veux prier avec mes frères et sœurs, je veux participer. Peut-être que mardi soir, je vais rater un bon film, mais tu as tous les autres soirs pour regarder un film. Mais mardi soir, Seigneur, je veux participer et prier et voir de mes yeux la réponse à nos prières. C'est ce que j'ai vécu les années passées. On a prié, on a vu tellement de réponses jusqu'au jour où c'est moi qui ai eu un problème et l'Église a prié pour moi. J'étais en Israël, je menais tout un groupe et au tout début du voyage, je suis tombé malade, je ne pouvais pas sortir. Il dit, mais comment je vais faire? Je suis dans un pays que je ne connais pas. J'ai tout un groupe à mener et je ne peux pas me lever. Et l'église a prié pour moi. Et le lendemain, un miracle, c'était tout fini. Et j'ai pu mener le truc. Et je dis, Seigneur, merci pour la prière de l'église. On a vu une personne qui devait mourir. Les médecins avaient rassemblé toute la famille autour pour lui dire au revoir. Et l'église a prié. Et la personne est sortie du coma. Elle est revenue. Elle a été restaurée, elle est venue à l'église témoigner et elle a témoigné que quand il était dans le coma, il entendait les prières, il entendait des gens prier. Le Seigneur l'a restauré, il s'appelle Arnaud. Et il a témoigné, il est venu à l'église, il a témoigné de ce que Dieu a fait. On avait un bébé qui était dans le ventre de sa mère, qui n'avait pas de cerveau. L'église a prié, il est né avec un cerveau. Il y a tellement de choses que nous avons vues. Un monsieur il n'avait plus que 20% de poumons. Puis un jour, dans un temps de jeûne et prière, une sœur a à cœur de prier pour lui. Elle pose la main, elle ne sait même pas, elle prie pour lui, que Dieu le guérisse. Il va voir les médecins ne comprennent pas. Il est passé de 20 à 80%. Il a rendu témoignage. On a vu une dame venir en chaise roulante à l'église. Elle ne pouvait plus marcher depuis plusieurs années à cause de problèmes. Et elle s'est approchée du Seigneur, elle a ouvert son cœur. La semaine d'après, elle marchait avec une béquille que moi, je ne l'ai pas reconnue. Parce que je m'attendais à la voir toujours sur chaise roulante. Elle marchait avec une béquille. Et quelques temps après, elle marchait normalement. Elle a été aussi restaurée. Elle faisait des cauchemars la nuit. Dieu l'a restaurée complètement. Dieu a agi. L'Église a prié. Malheureusement, elle ne s'est pas attachée au Seigneur. Elle l'a quitté. Mais le Seigneur a manifesté sa bonté. Et tout autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de la présence de Dieu, roi, au milieu de nous. Amen. Alors je voudrais faire simplement un appel et juste avant de faire l'appel, qui marchera pour nous? Dieu dira, mais qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Avant de servir Dieu, il faut marcher avec lui. Tu ne peux pas le servir si tu ne marches pas avec lui. Marchera pour nous. C'est qui nous? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Avant de servir Dieu, on a besoin de marcher avec lui. Parce que quand tu marches, vous savez, quand vous marchez dans la vie avec quelqu'un, c'est que cette personne est tellement importante que tu as décidé de vivre avec. Et en général, quand tu marches avec quelqu'un, c'est que tu es sûr qu'elle t'aime. Tu ne vas pas marcher avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Oui ou non? Eh bien, tu as besoin peut-être de découvrir combien Dieu t'aime. Et quand tu découvres combien Dieu t'aime, tu veux marcher avec lui. Et après, quand tu marches avec lui, tu veux le servir. Amen. Et juste avant l'appel, je sais que ça fait beaucoup, mais... Je voudrais dire ceci, j'ai développé comme point d'Ésaïe 6, mais il y en a plein d'autres. Et je voudrais te dire, peut-être tu es là et tu te dis, mais moi, je suis loin de tout ça. Moi, je suis loin de la présence de Dieu dans l'Église, le Dieu roi, oh là là, moi je suis loin de tout ça. Ouais, je suis loin de tout ça, mais j'ai des problèmes. Mais vous savez, dans le texte d'Ésaïe 6, Dieu révèle aussi qu'il est le Dieu puissant. Et je voudrais te dire, même si le message il te passe au-dessus, Dieu s'intéresse à tes problèmes, ça ne lui passe pas au-dessus au Seigneur. Il s'intéresse à ce que tu vis et je voudrais te dire, il est le Dieu puissant. La Bible dit que les fondements étaient ébranlés dans cette vision. Et je voudrais te dire, quel que soit ton problème, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit intérieur, je ne sais pas, mais Dieu est puissant pour te visiter ce matin, même si tu ne l'aimes pas et que tu ne le connais pas. Parce que lui, il t'aime, il te connaît. Et j'aimerais te le dire à toi qui peut-être ne connais pas Dieu, tu peux ce matin lui parler, tu peux lui apporter ton problème. Dieu entend. Et Dieu va répondre comme il l'a fait pour un grand nombre de personnes. On va incliner nos têtes quelques instants et prier. Et prier. Dieu voulait un temple où sa présence prendrait la place, remplirait ce temple. Parce qu'il n'y a rien pour nous de meilleur que Dieu lui-même au milieu de nous. Là où il est, il y a l'autorité, il y a la puissance, il y a l'amour, il y a la gloire. Il nous donne l'exemple avec Salomon. Et il nous montre tout ce déclin. Il rappelle à Ésaïe que ce que Dieu veut, c'est qu'il remplisse ce temple. Et c'est ma prière pour l'église d'Albi. C'est ma prière, avant même de faire des choses pour Dieu, nous voulons l'accueillir. Nous désirons qu'il soit libre au milieu de nous et nous l'accueillons par la foi, en croyant dans notre cœur. Et nous nous joignons à d'autres croyants pour former cette maison spirituelle. Afin qu'en priant ensemble et par notre service, Dieu remplisse l'église. Je voudrais faire 4 appels à des personnes différentes. Premièrement, à ceux qui ont besoin de reconsidérer la présence de Dieu dans leur vie. Avant d'amener Dieu dans l'église, Dieu veut venir dans notre cœur. Peut-être que tu te rends compte que dans ton cœur, même si tu as C'est comme si Dieu a été ajouté à ta vie, mais Dieu n'est pas le roi de ta vie. Tu ajoutes Dieu comme tu ajoutes d'autres choses. Et tu as besoin de reconsidérer la présence de Dieu. Et dans ta vie spirituelle, il y a de l'épuisement, il y a peu de fruits, il y a un cœur qui est attiré ailleurs, il y a de l'irritation envers les autres. Ça, c'est les signes du manque de la présence de Dieu. Et Dieu voudrait te dire, ce matin, je veux te remplir. Je veux te convaincre de péché, que tu es pécheur et pardonner tes péchés. Ça, c'est pour que je vienne habiter en toi. Mais ensuite, je veux te remplir de l'Esprit. Je veux que tu sois baptisé de l'Esprit. Et qu'une fois que tu es baptisé de l'Esprit, tu t'entretiennes. Et qu'à la maison, tu t'entretiennes par des hymnes, des psaumes spirituels en esprit. Pour que lorsque tu pries en langue, en esprit, tu puisses vivre cette vie abondante. Cette semaine, une sœur me disait, elle a été baptisée de l'Esprit il y a quelques semaines ici. Elle me disait, quand je prie en langue, pasteur, ben, j'ai vu Dieu répondre à mes questions. J'ai vu Dieu répondre à mes problèmes. J'ai vu Dieu m'éclairer. J'ai dit, ben oui, c'est ça. Pas tout de suite, pas au moment où je prie en langue, mais quelques temps après. Quand je prie en esprit, les choses se passent. Il veut que tu reconsidères sa présence. Peut-être que tu n'avances pas dans ta vie parce que Dieu n'est pas le roi. Mais nous avons besoin de l'écouter, qu'il devienne roi. Tant qu'il n'est pas roi, on tourne dans le désert. Et il ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Mais souvent, il vient nous parler sur un point. Il nous éclaire sur un point. Et c'est sur ce point-là que Dieu nous attend. Et quand nous disons « Oui, Seigneur », alors nous vivons sa vie et il continue d'agir en nous. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut reconsidérer la présence de Dieu, la royauté de Dieu dans sa vie. Avant de le faire et de le demander pour l'Église, y a-t-il quelqu'un qui dit « Seigneur, je veux que tu remplisses ma vie, je reconnais qu'aujourd'hui je viens à l'Église, mais il n'y a plus ce feu pour Dieu. Il n'y a plus ce désir, je n'ai pas les sentiments qui étaient en Christ. Pour les âmes qui sont perdues, mais si c'est ton désir, je t'inviterai simplement à te lever là où tu es à ta place. Il n'y a pas de honte, on a tellement besoin, on marche à contre-courant. » Et sans la vie de l'Esprit en nous, vous savez, eh bien, très rapidement, on prend la température de ce monde. Et dire, Seigneur, je veux reprendre du temps dans ta présence. Je veux être touché, marqué par ta présence. Le deuxième appel, c'est de pouvoir entendre l'appel de Dieu, qui enverrai-je ? Et de dire, Seigneur, alors que je crois dans ta présence, je t'aime. Et que, Seigneur, pour moi, ta présence est importante. Je veux te servir cette année dans l'Église. Je veux te servir en m'unissant avec mes frères et sœurs par la prière ensemble. Nous avons un temps jeudi matin, nous aurons un temps mardi soir. Et Seigneur, je veux m'impliquer ici à Albi. Je veux me lever pour te servir. Je ne veux pas apporter des offrandes sur des autels étrangers, comme nous le voyons au temps des rois. Mais je veux t'apporter, Seigneur, ma foi. Je veux apporter ma foi, mon temps, mon cœur, mon énergie. Pour te servir, pour ton Église. Et le but, ce n'est pas juste l'Église, mais c'est le royaume de Dieu au sein de l'Église, au travers de l'Église. Je veux commencer à croire. Et si tu es déjà engagé là-dedans, de dire, Seigneur, je me reconsacre et je veux continuer de te servir. Et si tu ne l'es pas, eh bien, de dire, Seigneur, je veux m'engager à te servir cette année. Et servir, je le répète, ça commence déjà par le fait de croire dans le tout accompli de Christ. Ça commence par le fait de croire dans sa parole. Ça commence par le fait de prier ensemble. Alors j'inviterai aussi à te lever à ta place. Et je bénis Dieu, je sais que le Seigneur, eh bien, il n'a pas besoin d'un grand nombre de personnes pour agir. Il a besoin de quelques cœurs pour pouvoir agir. Et troisième appel, qui marchera pour nous ? Si tu veux aussi t'engager à marcher avec lui parce que tu sais qu'il est bon, tu sais qu'il est vrai, tu sais qu'il est réel, mais tu ne t'es pas engagé. Et le Seigneur veut t'inviter à t'engager envers lui, à faire alliance avec lui. On fait au niveau de l'Église des études sur la vie éternelle et le baptême pour justement avoir cette assurance. La vie éternelle, c'est pour avoir l'assurance de cette vie en nous et l'étude de baptême, c'est pour s'engager envers Dieu et de dire, Seigneur, je sais déjà que tu es bon maintenant. Je veux m'engager à marcher avec toi. Je voudrais faire cet appel et t'inviter à te lever. Et quatrièmement, ceux qui ne connaissent pas Dieu au milieu de nous, mais qui ont besoin de la puissance de Dieu dans leur vie, qui ont besoin de le connaître. Tu ne connais pas Dieu, mais tu sais que tu es malade, tu as besoin de guérison. Tu sais que tu es lié, tu as besoin de délivrance. Ou tu es dans le manque, tu as besoin de provision. Ou tu es affaibli, tu as besoin du soutien de Dieu, du secours de Dieu. Où tu as peur de la mort, tu as besoin de cette assurance de la vie éternelle, ce salut, ou le salut simplement d'une situation compliquée. Eh bien, t'inviterai aussi à t'approcher sur le devant. Je vais demander à Jérémie de revenir, si tu peux faire un chant avec l'équipe. Et je vais prier maintenant pour ceux qui sont debout. Seigneur, ensemble, nous sommes devant toi. Merci pour l'appel et ce que tu as montré à Ésaïe. Seigneur, ensemble, nous voulons poursuivre ta présence au milieu de l'Église, au milieu de nous, ta royauté au milieu de nous. Et pour cela, nous savons que nous avons besoin de te recevoir dans nos cœurs. Je te prie pour toutes les personnes qui sont debout, afin que, Seigneur, dans cette année, ils puissent reconsidérer ta présence. Que nous ne soyons pas de ceux qui restent au même point, mais de ceux qui ont soif de toi. Je te prie, Seigneur, de mettre un feu nouveau, de rallumer le feu dans les cœurs. Et je te demande, Seigneur, qu'il y ait un amour pour ta présence et pour ta parole, afin de l'écouter, la respecter, la croire. Je te remercie, merci pour ce que tu fais pour ces bien-aimés. Je te prie aussi pour ceux qui veulent te servir dans l'Église, non seulement là où ils sont, là où tu les as placés, auprès de leurs voisins, leurs amis, leurs collègues de travail, mais aussi dans ce lieu, dans le temple, dans l'Église, là où tu veux te révéler, te manifester. Tu vois les besoins de l'Église, Seigneur. Je te prie de susciter, de créer le vouloir et le faire dans les cœurs, afin que nous puissions te servir par la prière, mais aussi par l'offrande de nos corps. Merci, Seigneur. Je prie aussi pour ceux qui veulent s'engager avec toi, afin que tu les fortifies, tu les encourages, tu les affermis, Seigneur, et que dans ce temps d'étude, ils soient bénis par toi. Je te bénis, Seigneur, et je te remercie. Amen. Pouvez-vous asseoir. Et pendant qu'on prend un dernier chant, si vous êtes là ce matin avec un besoin de guérison, de délivrance, de secours, ou vous croyez que Dieu est puissant et peut faire quelque chose pour vous, eh bien, je vous inviterai à vous approcher devant et on va simplement prier avec vous, avec les anciens. Nous allons prier avec vous. Et le Seigneur va agir parce qu'il vous aime. Amen.
Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Bien est égal à la beauté du Seigneur. Jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Jamais.